Voilà, donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en train de parcourir l'évangile de Jean. Et nous arrivons au chapitre 3, et le chapitre 3, c'est un chapitre absolument brillant dans le sens qu'il est très très connu. Et dans ce chapitre, nous allons voir qu'il y a le verset le plus célèbre de toute la Bible, c'est Jean 3, 7, d'accord? Donc j'ai intitulé mon message ce matin, Nicodème et la nouvelle naissance, et on va juste lire quelques versets pour nous lancer dans dans le texte, à partir du verset 1, Jean 3, verset 1, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, le 2 novembre 1976, j'étais dans une rue à New Delhi, en Inde, lorsque un missionnaire hollandais m'a parlé de Jésus-Christ et du salut qu'il offrait, gratuitement. Alors, c'est vrai que mon cœur était frappé par ce que j'entendais. Et quelques minutes plus tard, là dans la rue, j'ai demandé à Jésus-Christ de devenir mon sauveur et mon Seigneur, de me pardonner mes péchés, de venir en moi et transformer ma vie. Eh bien, ma vie n'a jamais été la même depuis. Alors maintenant, si vous connaissez Jésus-Christ, vous avez eu la même expérience que moi, même si les circonstances étaient bien sûr différentes. Mais un jour, vous avez entendu le message de l'Évangile et vous êtes tourné vers Jésus-Christ. Et vous lui avez demandé de devenir votre sauveur et votre Seigneur, et votre vie aussi a été complètement changée. Excusez-moi. Votre vie a été complètement changée à ce moment-là. Alors, savez-vous ce qui est en fait arrivé au moment précis, à cet instant où vous avez placé votre foi en Jésus-Christ et lui, il est rentré en vous pour vous sauver? Que s'est-il passé à cet instant-là? Eh bien, à cet instant, au moins 14 choses, oui, ça c'est le minimum, 14 choses sont arrivées de manière invisible dans votre vie, chacune étant une facette différente du salut. Alors, très rapidement, c'est intéressant, d'accord? Il y a eu, par exemple, la conversion. La conversion, vous avez été transformé par Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, par votre repentance et par votre foi. Il y a eu ensuite la substitution. Jésus a pris ma place sur la croix en tant que mon substitut. La Bible appelle ça la substitution. Il y a eu ensuite la réconciliation. Moi qui étais ennemi avec Dieu, je suis maintenant devenu son ami. Il y a eu ensuite ce qu'on appelle la propitiation. La colère de Dieu fut apaisée par le sacrifice de Jésus sur la croix, à cet instant aussi, vis-à-vis de moi. Ensuite, il y a eu la rémission. Ma dette fut payée et annulée par Jésus. Ensuite, il y a eu la rédemption. Ça veut dire que j'étais racheté de l'esclavage de mon péché par la rançon payée par Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle l'imputation. Mon péché a été mis sur le compte de Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu l'adoption. J'étais accueilli comme fils de Dieu, donc sommes son propre enfant par l'œuvre de Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu la justification. J'ai été déclaré innocent par l'œuvre de Jésus-Christ. À partir de cet instant, Dieu ne voit plus mon péché. Il y a eu ensuite ce qu'on appelle la sanctification. J'ai été mis de côté pour une utilité divine de la part de Dieu. Et ensuite, ça c'est à venir, mais quelque part c'est déjà prononcé, la glorification, c'est l'état parfait qui m'attend une fois que je passerai de cette vie à la prochaine vie. Il y a la préservation, c'est-à-dire que je suis préservé et scellé par le Saint-Esprit pour l'éternité. Il y a aussi la prédestination, qui veut dire que j'étais choisi avant la fondation du monde pour être sauvé, selon Éphésiens 1. Et finalement, il y a eu la régénération, je nais de nouveau et je reçois une nouvelle naissance. Écoutez mes amis, ça c'était très rapide, c'est les 14 facettes du salut qui arrivent à l'instant où Jésus-Christ devient notre sauveur et notre Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, dans Jean chapitre 3, nous voulons examiner juste une de ces facettes, un de ces points, un sur les 14, Un de ces descriptifs du salut, c'est le dernier dans la liste que j'ai évoquée juste maintenant, c'est ce qu'on appelle la régénération ou bien la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, l'idée d'être né de nouveau. Et dans ce texte de Jean 3, une histoire étonnante est racontée, celle de Nicodème. Alors Nicodème est un chef religieux juif qui est confus quant à son propre parcours spirituel. Simplement dit, il a un doute sur son éternité, il a un doute sur si oui ou non il verrait le royaume de Dieu à sa mort. Alors il est chef religieux, mais dans son cœur il était vide et se posait un tas de questions. Et alors il prend le risque d'aller voir Jésus la nuit pour lui poser des questions, et Jésus va lui répondre en lui parlant de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Alors, la manière que j'aimerais décliner ce texte, c'est de nous montrer que ce texte, Jean 3, nous apprend 7 vérités essentielles sur la nouvelle naissance. D'accord ? 7 vérités essentielles qui nous expliquent ce qu'est la nouvelle naissance. Numéro 1. La première vérité essentielle concernant la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle naissance n'est pas une religion. La nouvelle naissance n'est pas une religion. Regardez le verset 1. Le verset 1, il est dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Donc, il y a un homme qui s'appelle Nicodème et il est un pharisien. Et les pharisiens étaient un parti religieux qui avait comme devise la rigueur religieuse extérieure. Selon eux, le but ultime de l'homme, c'était de garder chaque aspect de la loi jusqu'à son plus petit détail. Voilà le but. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il était chef des Juifs, qui veut dire qu'il faisait partie du Sanhédrin, qui était le corps décisionnel ou la cour suprême des Juifs composée de 70 membres. Alors le fait qu'il était chef indique aussi qu'il était un des enseignants distingués de ce groupe de 70. Il était docteur, selon le verset 10, on le verra tout à l'heure. Cela veut dire qu'il était expert de la loi, il était enseignant, il était reconnu comme tel. Bref, c'était un homme d'une grande réputation, un chef, un leader, un enseignant, un docteur respecté. Bref, c'était un des très grands d'Israël. Et pourtant, l'image extérieure d'une personne peut être très trompeuse. Oh oui, on le voyait dans la rue, on le voyait, on disait « Waouh, alors voilà un homme de Dieu !» C'est ce qu'on aurait pu imaginer. Mais vous savez, on peut donner une apparence où on donne l'impression que tout va bien, lorsqu'en réalité, tout va mal. Tout va mal. Et incroyablement, tel était le cas pour Nicodème. Bien qu'il fût un des docteurs de la loi et les plus hauts placés du Sanhédrin, il s'interroge par rapport à son propre destin éternel. Moi, j'ai connu un prêtre une fois, un prêtre catholique, qui était 21 ans et il était complètement engagé dans l'Église. Et un jour, on parlait, je lui demandais, mais écoute, si tu mourrais ce soir, est-ce que tu irais au ciel? Il était incapable de me répondre. Je lui pose une question, une fois, je lui dis, mais si un enfant te demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel, qu'est-ce que tu lui dirais? Il était incapable de me répondre. Vous savez, mes amis, il y a beaucoup de gens qui sont très religieux, mais qui n'ont aucune idée s'ils iront au ciel ou pas lors de leur mort. Et voilà le cas de cet homme Nicodème. Sa religion le laissait vide. Et là, ce qu'on apprend ici, c'est donc que la nouvelle naissance n'est pas une religion. Ça n'a rien à voir avec une religion. On peut être religieux, mais pas être né de nouveau. Deuxième vérité essentielle concernant la nouvelle naissance, la nouvelle naissance veut dire naître d'en haut. Naître d'en haut. Regardez verset 2. Donc cet homme vint, lui, auprès de Jésus, venu et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, mais personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Alors déjà, cet homme, Nicodème, vient de nuit voir Jésus. Probablement parce qu'il avait peur d'être vu avec Jésus. Voyez-vous, Jésus, même s'il était dans le tout début de son ministère, juste vraiment un jour, un ou deux jours, Il était déjà mal vu par l'établissement des Juifs du fait qu'il avait, vous rappelez, le jour juste, le même jour, parce que c'est le soir du jour du chapitre 2, il avait été dans le temple et il avait chassé tous les vendeurs et tous les changeurs d'argent, ils avaient tous chassé du temple. Donc déjà là, Jésus avait fait une sorte de réputation plutôt mauvaise parce qu'il avait, il avait vraiment nettoyé le temple. Et alors, Jésus était mal vu et ce leader juif ne voulait pas, lui, être repéré pour être pris comme étant un des partisans du groupe autour de Jésus. Et alors, il vient de nuit, nous dit le verset 2. Et qu'est-ce qu'il conclut? C'est très intéressant, verset 2. Il conclut premièrement que Jésus est docteur, il l'appelle rabbi docteur, et affirme qu'il enseignait la loi de Dieu avec justesse, puisqu'il venait de Dieu. C'est ce qu'il dit, hein. Il va auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, il reconnaît qu'il est docteur, il reconnaît que Jésus est venu de Dieu. Donc, il continue, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc il dit, il reconnaît que Dieu est avec lui, et il reconnaît aussi qu'il fait des miracles, et que ces miracles sont légitimes et vrais. Alors comment est-ce que Nicodème sait que les miracles de Jésus sont vrais et légitimes? Mais au chapitre 2, verset 23, il est dit, après qu'il nettoie le temple, il dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fin de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Il avait aussi, juste avant, fait le miracle à Cana, où il a transformé de l'eau en vin. Certainement, ce miracle a fait le tour d'Israël. Les gens avaient entendu, waouh, un gars qui a fait du vin, qui a fabriqué du vin comme ça. Mais là, il continue à faire des miracles, et c'est pas impossible, on ne le sait pas, mais on a l'impression que Nicodème en aurait vu, du fait qu'il dit, nous savons que tu fais, au chapitre 3, verset 2, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc il conclut, waouh, tu dois être de Dieu, parce que les miracles que tu fais sont vraiment des miracles que j'ai vus de mes propres yeux. C'est l'impression qu'on a. Donc, bien sûr, en voyant ces miracles, Nicodème se pose la question, mais qui est ce Jésus? Alors Jésus répond au verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors je sais pas, est-ce que la réponse de Jésus vous surprend un peu? Ben, elle paraît complètement hors contexte. On n'a pas l'impression que Jésus répond à la question. Nicodème lui dit, Thomas, tu fais des miracles de Dieu, qui es-tu? Il lui répond, écoute, il faut être né de nouveau. Ça n'a rien à voir. On a l'impression qu'il y a un déconnect là, entre les deux choses. Eh bien, moi je pense ce qui se passe, c'est que, regardez chapitre 2, versets 24 et 25. Mais Jésus ne se fiait point à eux, aux gens qui disaient qu'ils croyaient en lui, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus étant Dieu incarné, le texte nous dit qu'il est omniscient. Dieu sait, Jésus sait tout et il sait tout de tous les hommes. C'est-à-dire qu'il peut nous transpercer par son regard et voir même les intentions de notre cœur. Et là, Jésus est devant Nicodème, et Jésus transperce Nicodème et connaît exactement le vrai mobile de sa venue. Il connaît pourquoi, il sait pourquoi Nicodème est venu le voir. Et donc, il répond à la question que Nicodème se pose dans son cœur. C'est quoi cette question? Comment un homme peut-il voir le royaume de Dieu? Voilà la question. Il dit à Jésus, écoute Jésus, alors il ne dit pas, mais c'est ce qu'il pense. Jésus, si toi tu viens de Dieu, dis-moi comment je peux connaître Dieu et comment je peux rentrer dans le royaume de Dieu et le voir. Alors Jésus maintenant répond à cette question qu'il n'a pas posée. Verset 3, ben je te l'ai dit, un homme doit naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Alors, maintenant ça se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Alors la phrase littéralement « né de nouveau » veut dire « naître d'en haut ».« Naître d'en haut ». C'est le même mot utilisé dans Marc 15, 38 où il parle du voile du temple qui se déchira en deux du haut en bas. Mais ici c'est la naissance d'en haut, c'est le même terme. Donc Jésus lui répondit « en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Jésus dit simplement ici qu'il y a une naissance physique pour tous les hommes, mais que pour pouvoir voir le royaume de Dieu, qu'il faut passer par une autre naissance qui n'est pas physique, mais une naissance d'en haut, une naissance spirituelle, ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Et sans cette nouvelle naissance, il est impossible de voir le royaume de Dieu et donc Dieu. Un peu comme un homme aveugle ne peut pas voir un coucher du soleil, eh bien un homme naturel ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alors la Bible parle beaucoup du fait qu'on doit naître de nouveau. Je vous donne un exemple. Dans Jean 1, 12, qu'on a lu lorsqu'on le faisait Jean 1, 1, 12 et 13 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, pardon, de Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, mais de Dieu. Donc il dit, ben voilà, on devient enfant de Dieu lorsqu'on est de Dieu. Il faut naître de Dieu. C'est une nouvelle naissance. Dans 1 Jean 5, 1, il est dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, il faut naître de Dieu. Tite 3, 5 le dit comme ceci. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. On doit être régénéré. Régénéré. Écoutez, 2 Corinthiens 5, 17, ça c'est le top du top qui dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ben oui, nouvelle, qui veut dire une création qui n'existait pas avant. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on apprend au verset 3? Plusieurs choses. Premièrement, on apprend que le royaume de Dieu existe, que le royaume de Dieu, c'est la demeure de Dieu, c'est le royaume de Dieu, et que nous pouvons y accéder pour le voir. C'est possible. Mais on apprend aussi que dans ce verset que les hommes n'y accèdent pas automatiquement. Tous les hommes n'y vont pas systématiquement. Non, il y a une condition, c'est ce qu'il dit, il faut renaître. Il faut être né de nouveau. Ceux qui renaissent, on apprend dans ce verset, verront le royaume de Dieu. Alors, on sait aussi que ceci est une vérité absolue. Pourquoi? Parce que regardez ce que Jésus dit. Dans verset 3, il dit, en vérité, je te le dis. Alors, chaque fois que Jésus utilise cette petite formule, en vérité, il est en train de dire, alors pas que le reste de ce qu'il dit n'est pas vrai, mais il veut mettre un trait rouge dessus, mettre en gras pour dire, en vérité, écoute, ce que je te dis maintenant, c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai et vraiment important. Il faut naître de nouveau. C'est un absolu, une vérité absolue. Et on voit en plus que l'accès au royaume des cieux n'est pas la conséquence d'un effort quelconque, d'une ligne de conduite ou d'un code respecté ou d'une obéissance morale ou d'une appartenance religieuse, d'une observance particulière ou d'un effort à faire. Non, il n'y a aucun effort dans ce verset. Non, la seule manière, nous dit ce verset, de voir le royaume de Dieu, c'est de renaître. Renaître. C'est expérimenter une transformation spirituelle totale. Alors peut-être on se pose la question, et Nicodème certainement se pose la question, parce qu'on va le voir. Mais pourquoi faut-il renaître pour voir le royaume de Dieu? Pourquoi? Eh bien, la réponse est simple. Je dois renaître, donc il doit y avoir un nouveau moi qui naît. Pourquoi? À cause de la corruption de la nature humaine. Écoutez Jérémie, chapitre 12, verset 23. N'oubliez pas ce verset parce qu'il est vraiment génial. Écoutez. Jérémie 12 et le verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes exercé à faire le mal? Non mais attendez, là c'est un verset. Dis écoute. Nous exerçons le mal et nous sommes exercés à faire le mal. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans notre péché, nous dit la Bible. Et donc, je ne peux rien faire pour m'enlever ce péché moi-même. C'est pas possible. C'est comme de dire, léopard, enlève tes taches. Il n'y arrive pas. Il essaye, mais il n'y arrive pas. C'est pas possible. Impossible. Je ne peux pas effacer mon péché moi-même. C'est pas possible. Pourquoi? Ben déjà, Éphésiens 2 dit que je suis mort devant Dieu à cause de mon péché. Je suis enfant de la colère, nous dit Éphésiens 2, 3. Je suis fils de la rébellion, nous dit Éphésiens 2:2. Je suis affligé par ma nature rebelle. Regardez encore Romains 3. Romains 3, qu'est-ce qu'il dit? Romains 3, verset 10. Selon tes écrits, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Écoutez, nous sommes tous malades de péché et nous ne pouvons rien faire pour l'enlever nous-mêmes. C'est impossible. Donc la seule manière de changer, c'est par une nouvelle naissance. C'est que Dieu vienne et me transforme. Voilà la clé. Et comme un enfant naturel, un bébé naturel ne contribue rien à sa naissance. Il naît. Eh bien, nous ne pouvons rien contribuer à notre nouvelle naissance spirituelle. Il faut simplement laisser Dieu faire. Pauvre Nicodème, confusion totale. Regardez le verset 4. Le verset 4, vraiment intéressant. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux, dit Nicodème. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Enfin là, Jésus lui dit, mais attends, tu dis, je vais renaître. Mais c'est pas possible, ça. Je peux pas renaître physiquement. La renaissance doit forcément donc être quelque chose d'autre que ce n'est qu'une chose physique. Alors Jésus continue au verset 5, sachant qu'il n'est jamais trop tard pour un homme de renaître. Au verset 5, Jésus répond et dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il y a toutes sortes d'idées sur ce que ce verset veut dire, naître d'eau et d'esprit. Mais l'interprétation devient très simple lorsqu'on regarde au contexte. C'est là toujours la clé, une des plus grandes clés pour comprendre la Bible, le contexte. Eh bien, le contexte, c'est le verset 6. Et le verset 6 explique le verset 5. Regardez le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Bon, verset 6, les choses sont claires. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire que je suis né une fois physiquement, d'accord? C'est vrai de tous les hommes. Et ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Ça, il part de notre naissance spirituelle. Donc, on est une fois physiquement et on est une deuxième fois spirituellement. Physiquement, spirituellement. Et là, Jésus fait directement le lien entre le verset 5 et le verset 6, entre l'eau du verset 5 et la chair du verset 6. Qui veut dire que la naissance naturelle correspond à la naissance par l'eau. Et c'est intéressant que le mot grec pour « par l'eau » est « exoudatos », qui peut être traduit « né des eaux »,« né des eaux ». Il est intéressant de constater qu'en hébreu, le mot pour « accoucher » est une référence à la rupture des eaux ou la rupture du sac embryonique. Donc, voilà ce qu'on est en train de dire les versets 5 et 6. C'est simple. On est une fois physiquement par la rupture des os de notre maman, et on est une deuxième fois par l'Esprit de Dieu. Et la seconde naissance, c'est une toute nouvelle naissance, une naissance spirituelle par l'Esprit. C'est une naissance parfaitement réelle, c'est une nouvelle naissance. Donc, un chrétien a quelque part deux naissances, naissance physique, naissance spirituelle. Un non-chrétien a qu'une naissance, naissance physique. Alors écoutez, ça c'était capital à comprendre pour un juif comme Nicodème. Car voyez-vous, pour un juif à l'époque, et surtout un pharisien qui était toujours en train de tenir la loi, naître de la lignée physique d'Abraham était quelque part son autre passeport pour aller au ciel. Et dans Philippiens 3, Paul se vante d'avoir été lui aussi un pharisien d'Abraham, de la lignée d'Abraham. Et Jésus dit, non, t'as rien compris, Nicodème. Non, ta naissance physique n'a rien à voir avec ta naissance spirituelle. Même le plus haut dignitaire de la religion juive, même le chef des pharisiens qui s'appelle Nicodème, doit passer par la nouvelle naissance pour pouvoir accéder au royaume de Dieu. Tout le monde doit passer par la nouvelle naissance, il n'y a aucune exception. Même le plus top du top des religieux, non, tu dois passer par une nouvelle naissance. Donc, on a vu que premièrement, la nouvelle naissance n'est pas une religion, 2. Une nouvelle naissance ne veut pas dire, veut dire, excusez-moi, être, naître d'en haut. Naître d'en haut, une nouvelle naissance. 3. Troisième chose qu'on apprend par rapport à la nouvelle naissance ici, c'est que la nouvelle naissance est invisible, mais bien réelle. Invisible, mais bien réelle. Regardez maintenant le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, on ne peut qu'imaginer l'expression sur le visage de Nicodème. Jésus lui dit, ne t'étonne pas. Donc, ça va apparemment qu'il était étonné. Il dit, oh, ton truc sur la nouvelle naissance est incroyable. Il est en train de dire à Jésus. Jésus lui dit, ne t'étonne pas qu'il faut naître de nouveau. Et ensuite, il lui donne une illustration. Il lui parle du vent. Regarde le vent. Ben, tu en entends le bruit. Est-ce que tu le vois? Non. Non. C'est intéressant comment Jésus prend son temps pour expliquer les choses si clairement. Le vent est une illustration excellente. On ne voit pas le vent et pourtant il est bien réel, on le sent. On voit les feuilles, les fleurs, on voit dans les champs l'effet du vent. Mais on ne voit pas le vent. Le vent est invisible. Eh bien, voilà la réalité de la nouvelle naissance. On n'arrive pas à la voir, mais l'effet est radical. L'effet radical. Voilà l'illustration. Il lui dit, écoute, Nicodème, la nouvelle naissance est bien réelle, comme le vent est réel. Quatrième chose qu'on apprend sur la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle naissance est de nature céleste. Alors, c'est un peu pareil qu'on vient de voir, mais regardez verset 9, c'est intéressant. Au verset 9, on apprend ceci. Nicodème lui dit, mais que cela, comment cela peut-il se faire? Comment est-ce qu'on peut être transformé spirituellement et de manière invisible? Bien, verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alors là c'est un petit peu, là Jésus est en train de chlac. Lui dit, excuse-moi, Nicodème, tu n'as pas d'excuse. Tu es docteur d'Israël. Tu es censé connaître la parole de Dieu mieux que tout autre. Tu es censé enseigner ses vérités au peuple. Et tu ne connais pas ces choses, tu ne sais pas ces choses. Toi qui es expert de la loi, tu ne sais pas que les prophètes, parce qu'ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament, hein, tu ne sais pas que les prophètes parlaient déjà de ces choses. Alors bien, ils ne donnent pas la référence, mais ils pensaient clairement à Ézéchiel 36, qui dit ceci, Ézéchiel 36, 25, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos sures, de toute votre idole, je vous donnerai un cœur nouveau, dit Dieu dans Ézéchiel. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes pratiques de la loi. Et encore Ézéchiel 18, 31, écoutez. Voilà les choses que Nicodème aurait dû savoir. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais oui, encore Jérémie 31, 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi en dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nicodème, tu aurais dû savoir ces choses. Tout ce que je suis en train de dire ici dans Jean 3, c'est la même chose que disaient Ézéchiel et Jérémie dans l'Ancien Testament. Et là, Jésus met vraiment le doigt où ça fait mal. Nicodème est un chef religieux. Il avait oublié ces choses. Non, et malheureusement, ce qu'il faisait, malheureusement, comme tous les chefs religieux à l'époque de Jésus, eh bien, il mettait l'emphase sur les bonnes œuvres, et sur les bonnes œuvres, et sur les bonnes œuvres, et c'est pour ça que Jésus les dénonce. Les dénonce dans Matthieu 23, 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. » Pardon, il leur dit, « Vous êtes les chefs religieux et vous fermez le royaume des cieux aux hommes. » C'est incroyable. Verset 25, malheur à vous, hypocrites, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Il dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent bons en dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Il est en train de leur dire, écoutez, Vous êtes corrompu à l'intérieur. Vous avez un extérieur religieux qui paraît tout bien et tout beau. Vous imposez des règles et des lois sur les gens, mais ils n'ont pas un nouveau cœur. Et vous ne leur racontez pas, vous ne leur dites pas ce que Ézéchiel et Jérémie ont dit, que vous devez naître de nouveau. Voilà, Nicodème, ce que tu devrais savoir. Aïe. Verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Ici, Jésus s'associe aux prophètes du passé et explique que nous, les prophètes, donc lui comme prophète, nous disons des vérités et rendons témoignage de la vérité, mais vous, et là il parle à Nicodème, qui devient représentant d'Israël, vous ne recevez pas notre témoignage. Verset 12, si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Puisque toi, Nicodème, tu ne peux pas comprendre les vérités expliquées, toutes simples, sur la nouvelle naissance, et pourtant expliquées avec une analogie toute simple terrestre, le vent, comment peux-tu comprendre les autres choses célestes que j'aimerais t'évoquer avec toi? Donc, tu ne comprends même pas le béaba de la vérité. Ensuite, pour être clair, au verset 13, il dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jésus dit « Personne n'est jamais monté au ciel, puis est revenu pour expliquer ce qu'il a vu dans le ciel, sauf pour une personne. » Lui. Jésus, le Fils de l'homme. Et cet individu est celui qui te parle, Nicodème. C'est moi, je suis devant toi. Je suis le Messie, je suis Dieu incarné. C'est moi qui t'annonce ces choses. Et là, bien sûr, Jésus fait référence à son incarnation et à son ascension. Waouh! Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur la nouvelle naissance? Premièrement, que ce n'est pas une religion. Deux, que ça veut dire naître d'en haut. Trois, qu'elle est invisible mais bien réelle. Quatre, qu'elle est de nature céleste. Cinq, qu'elle s'acquiert par la foi. Voilà, comment est-ce qu'on devient né de nouveau? C'est ça la question. Eh bien, par la foi. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors comment faire? Comment faire pour être né de nouveau? Et pour pouvoir voir le royaume des cieux? Eh bien, Jésus donne la réponse ici. Et en fait, pour donner la réponse, puisqu'il parle à un chef, un docteur de la loi, quelqu'un qui connaît l'Ancien Testament, il donne une illustration tirée de l'Ancien Testament, qui donne au verset 14 et 15, et là, c'est une référence à Nombre 21, 4 à 9, qui est une histoire incroyable. Je vais vous lire, d'accord? Nombre 21, 4, écoutez. Alors, le contexte, c'est que c'est Moïse qui vient de libérer le peuple juif des Égyptiens. Ils sont dans le désert et le peuple ne fait que de se plaindre. Alors, ils partirent de la montagne, donc là je suis dans Nombre 21:4, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte ? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Donc, ils râlent et ils se plaignent. Alors, verset 6. L'Éternel envoya contre le peuple, écoutez bien, des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et mourut beaucoup de gens en Israël. Alors, le peuple va à Moïse et dit, mais nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ah, mais t'as voir. Il y a de ces récits dans la Bible qui sont complètement dingues. Et là, c'en est vraiment un, quoi. C'est incroyable, ce récit. Écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Alors là, on est dans Nombre 21, et le peuple est dans le péché. Ils sont rebelles, ils râlent, ils en ont marre. Et donc, Dieu annonce qu'il va les juger pour leur rébellion, et qu'il va le faire de manière plutôt unique, en envoyant les serpents venimeux pour mordre le peuple. Vous dites, mais John, c'est horrible ça. Oui. Oui, mais vous savez que Dieu est Dieu, et Dieu se réserve le droit de juger tout homme rebelle à lui. Le problème, c'est que tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont rebelles. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous les hommes doivent payer de la mort pour leur péché. Toute mort est le salaire du péché, quelle que soit la manière de la mort. La mort, c'est la mort. Et la mort, c'est un jugement de Dieu. Genèse 2:17, hein, l'homme avait été averti. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Donc voilà, la mort, c'est la mort. Qu'elle soit naturelle, qu'elle soit le résultat d'un meurtre, ou d'une chute où tu tombes, ou d'un cancer, ou d'un virus, ou d'un attentat terroriste, ou d'un accident, la mort, c'est la mort, et toute mort est un jugement de Dieu. Point à la ligne. Mais rappelons-nous que Dieu n'est pas qu'un Dieu de justice, il est aussi un Dieu d'amour et de grâce, et qu'il offre une solution pour que le jugement puisse être évité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi dans Jean 3. Dieu dit à Moïse, alors, de fabriquer un serpent d'airain et qu'il le hisse sur une perche. Et celui qui était mordu et qui alors regardait à ce serpent d'airain conservèrent la vie. Alors, c'est un peu bizarre, vous ne trouvez pas? Pourquoi pas avoir développé un vaccin anti-venin serpent? Pourquoi n'ont-ils pas simplement décidé de développer un médicament? Pourquoi Dieu ne leur a-t-il demandé de travailler, de changer de comportement pour qu'ils soient guéris? Au moins, ça aurait occupé le peuple. Peut-être ça aurait satisfait leur cœur de l'homme de travailler pour sa propre guérison. Eh bien, la raison que Dieu ne donne pas un médicament, c'est parce que il n'y a pas de médicament contre le péché. Il n'y a pas de médicament contre le péché. Non, le pécheur doit mourir pour son péché. Le pécheur ne peut pas s'enlever son propre péché, et donc il est, quelque part, il est cuit. À moins que Dieu pourvoie une solution. Et voyez-vous, ce récit des serpents préfigurait la venue de Jésus-Christ, où lui aussi est hissé sur une perche, la croix, où lui est devenu péché pour nous. Comme avec le serpent sur la perche, il est dit que quiconque aurait été mordu et le regardera conservera la vie. Ben, c'est pareil avec Christ. Si tu réalises que tu étais mordu par la morsure du péché, alors sache qu'il n'y a pas un médicament naturel pour toi. Impossible. Il faut faire une chose et une chose uniquement. Il faut regarder à Christ qui lui est perché sur la perche de la croix. Et croire que lui seul est la solution pour ton problème de péché et que lui peut te guérir exactement comme dans Nombre 21. C'est intéressant que le serpent qui avait le pouvoir de tuer le peuple est devenu le moyen d'en être guéri. Et ça, c'est Dieu. Dieu juge, mais Dieu, en offrant son Fils sur la croix, guérit. En versets 14 et 15, et comme Moïse et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est intéressant, le mot pour élever ici est le même mot utilisé pour décrire le fait que Jésus fut élevé sur la croix, et lorsqu'il faut aussi élever pour son ascension. Jésus ici, mes amis, donne à Nicodème la solution pour voir le royaume de Dieu. Et lui explique comment on fait pour naître de nouveau. Il faut croire au Fils de Dieu, donc à Jésus-Christ. Et c'est lui qui ôte les péchés du monde, Jean 1:29. Et c'est lui qui donne la vie éternelle et qui accorde la possibilité de voir le royaume de Dieu parce qu'il nous renouvelle. Et verset 16, le verset le plus connu de toute la Bible ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais oui, voilà la bonne nouvelle. Ben voilà, bonne nouvelle. Écoutez, c'est le verset le plus extraordinaire de toute la Bible parce qu'il résume l'évangile ici. C'est le cœur de l'évangile. J'ai lu cette explication captivante de Jean 3,16. Écoutez, c'est vraiment intéressant. Car Dieu, le plus grand amour, a tant aimé au plus grand degré le monde, la plus grande compagnie, qu'il a donné sa plus grande action, son fils unique, son plus grand cadeau, afin que quiconque, la plus grande opportunité, croit, la plus grande simplicité, en lui, la plus grande attirance, ne périsse point, la plus grande promesse, mais la plus grande différence, qu'il est la plus grande certitude, la vie éternelle, la plus grande des possessions. Bienvenue à Jean 3,16, mes amis. Voici le cœur de l'évangile. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils afin de te permettre de ne pas périr, mais de recevoir la vie éternelle. Comment? Par la foi. Un cadeau que tu reçois simplement en disant « oui Jésus, pardonne mon péché et donne-moi la nouvelle naissance et cette vie éternelle. » Et ça s'amène à la sixième vérité essentielle concernant la nouvelle naissance. La nouvelle naissance gomme le jugement. Gomme le jugement. Regardez verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est ce qu'on vient de dire. Nous sommes déjà jugés parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, toute personne est sous le jugement de Dieu aujourd'hui. Mais Jésus gomme le jugement lorsqu'on vient à lui. C'est incroyable. Gomme le jugement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il gomme le jugement en un instant. En un instant. C'est ce que nous dit le texte. Incroyable. Septième point, la nouvelle naissance expose le péché. Ben oui, c'est ça le problème. C'est que pour venir à Christ, être né de nouveau, il faut reconnaître son péché, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils du Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites de Dieu. C'est un petit peu la condition, mes amis. Pour naître de nouveau, il faut vouloir venir à la lumière, parce que la lumière expose notre péché, et nous pouvons donc le confesser, nous en repentir et accepter Christ. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas que leur péché soit exposé parce qu'ils aiment leur péché. Et voilà ce que ce texte dit. La plupart des gens disent non, je ne veux pas Jésus, je ne veux pas la lumière parce que j'aime mon péché. Et si je me tourne vers Jésus, eh bien la lumière va exposer mon péché. Bon, verset 21, c'est exactement ce qu'il dit, ce que celui qui vient à Christ veut. Celui qui vient à Christ n'aime pas son péché, il dit, viens, lumière de Dieu, expose mon péché. Là, ça marche bien avec la lumière, d'accord? Waouh! Et maintenant, je te confesse, je me repens de mon péché, Christ vient et pardonne-moi. Paf! À cet instant, on reçoit la nouvelle naissance. Aussi simple que ça. Mais il faut vouloir que son péché soit exposé. Et ça mène vraiment au dernier point. La nouvelle naissance procure la vie éternelle. C'est le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, moi, la question que je pose, c'est ça. Qui dirait non à la nouvelle naissance? Qui dirait non à la vie éternelle? Qui dirait non au royaume de Dieu? Surtout qu'il n'y a rien à faire, sauf reconnaître son péché et dire « Jésus, mort et ressuscité, viens en moi. Fais-moi une nouvelle créature. Transforme ma vie. Deviens mon maître, mon sauveur, mon Seigneur. Je te donne ma vie, je te donne mon péché, je te donne tout. Seigneur, fais de moi une nouvelle créature. » Et ce qu'on va découvrir à la fin de Jean, c'est que Nicodème a fait cette démarche. Il a compris. Il a dit « Oui, Jésus. » Il était à l'enterrement de Jésus. Mais ça, on le reverra plus tard. Seigneur, waouh, quel récit incroyable. Seigneur, moi je te prie que si quelqu'un écoute ou a écouté et n'est pas sûr du fait qu'il ou qu'elle soit né de nouveau, que maintenant soit le moment, Seigneur, et qu'il te demande tout simplement, dans toute simplicité par la foi, ô Jésus, fais-moi naître de nouveau maintenant. Seigneur, fais ton œuvre. Je te le demande au nom de Jésus.